Neuvième manche cette saison en Formule 1. Ça se passera du côté de l'Autriche. On rejoint immédiatement Jacques Villeneuve qui est avec nous. Salut Jacques.
Salut.
Jacques, écoute, c'est le Grand Prix d'Autriche. Et là, c'est le... Moi, je pourrais dire, c'est le siège social, c'est la maison de Red Bull. On veut voir les Red Bull performer. Comment tu les as vus? Parce que là, on sait que c'est Hamilton et Bottas qui ont été les plus rapides lors des séances d'essais libres. Comment tu vois les Red Bull pour ce Grand Prix d'Autriche?
Ah, elles sont pas au niveau des Red Bull et des Ferrari. Ça n'a jamais été un circuit où elles ont été très compétitives. Écoute, il y a quand même beaucoup de lignes droites. La Red Bull n'est pas super vite en ligne droite. On va pas pointer du doigt le moteur. C'est aussi le châssis qui pousse beaucoup d'air, donc qui manque un peu de vitesse de pointe. Et cette saison, ils ont rajouté une ligne droite de DRS. Donc, c'est lorsque l'aileron arrière s'ouvre pour aller plus vite en ligne droite. Les trois lignes droites l'ont ouvert maintenant. Donc, ça pénalise moins les Red Bull. Mais malgré cela, elles sont un peu en retrait par rapport aux deux autres écuries.
OK. Qu'est-ce qui fait en sorte que Mercedes est tellement dominant cette année? Qu'est-ce qui explique tout ça?
Bon, en fait, les Mercedes sont moins dominantes cette année que toutes les années précédentes. Hein. On a souvent la Ferrari plus compétitive que la Mercedes, et c'est pour ça qu'on les voit apporter des nouveaux moteurs, des nouvelles pièces. Ils prennent des risques aussi dans leurs évolutions de voiture, parce que sinon, ils devraient incapables de battre les Ferrari. Là, depuis la France, ils ont amené leur nouveau moteur qui marche vraiment à merveille. Et ce week-end, ils ont beaucoup d'appendices aérodynamiques. Mais malgré cela, elles sont pas vraiment plus rapides que les Ferrari, alors que d'habitude, le vendredi, les Mercedes sont très rapides. Les Ferrari, ensuite, se rapprochent le samedi pour souvent les battre en qualification, alors que là, les Ferrari sont au niveau des Mercedes déjà le vendredi. Donc, je pense que ça va être un bon combat.
Ouais, mais il faudrait pas que les Ferrari fassent la même chose. Sébastien Vettel, au Grand Prix de France, qui est allé d'une petite boulette, malheureusement. Écoute, le gars, ça arrive des erreurs, mais c'était pas le bon moment, disons.
Non, mais on va se calmer. Si on regarde toutes les années de course mobile, on veut des pilotes qui tentent leur chance, qui prennent le risque, mais à chaque fois qu'il y a une petite boulette, c'est les critiques comme si c'était la fin du monde. On va se calmer. Il était complètement à l'intérieur. Il a freiné plus tôt que Bottas, sauf que dans une chicane, ce n'est pas un virage qui est rond. Donc, une fois qu'on est à l'intérieur, ça devient un angle droit et non plus un virage. Et Bottas n'a pas laissé un seul millimètre. Il a tourné tout de suite, a surpris Vettel, et Vettel a freiné un peu trop fort, bloqué sa roue. Ça arrive, c'est les aléas de la course. C'est dommage. Ça lui a coûté très cher, et à Bottas aussi. Mais je préfère ça que des courses où les pilotes ne tentent même pas de freiner ou de dépasser un autre, parce que là, ça deviendrait vraiment plate.
Ben, au moins, Vettel, après la course, a été clair. Regarde, il a dit « c'est mon erreur, le gars ne méritait pas ça, c'est moi, c'est ma faute ». Tu sais, c'est une belle preuve d'humilité quand même.
Oui, et puis c'est aussi quelqu'un qui se regarde dans le miroir et qui admet ses erreurs, et grâce à ça, ça lui permet aussi d'évoluer. Il y a plusieurs autres pilotes qui pointent tout le temps du doigt, mais jamais dans leur propre direction. Et donc, refont toujours les mêmes.
Ouais, t'as raison là-dessus. Jacques, écoute, je veux que tu m'expliques quelque chose. Dans le Grand Prix de France, on a vu la course, il y avait tellement un décalage entre les trois grosses écuries et le reste. Beaucoup, beaucoup de décalage. Est-ce que, selon toi, serait préférable, à un moment donné, en F1, que ça soit plus proche un peu, qu'on ait un peloton plus grand que juste trois écuries?
Non, c'est parce qu'on oublie l'historique. On oublie l'historique de la Formule 1. À l'époque de Prost et Senna, lorsqu'ils étaient coéquipiers chez McLaren, ils mettaient un tour à tout le monde. Même quand moi je roulais, souvent, les Minardi étaient à 5 secondes de nous. Maintenant, les derniers sont à 2 secondes. La F1 n'a jamais été aussi proche, aussi serrée. Donc, je comprends pas pourquoi tout le monde a l'impression qu'il y a un décalage hallucinant. Si on regarde la différence des budgets des grosses écuries qui tournent autour des 400 millions et des Force India qui sont à 100 millions, on parle de 4 fois le budget, elles sont qu'à 1 seconde, 1 seconde et demie, c'est rien. Elles sont collées.
Ouais, t'as raison là-dessus, mais quand tu vois le premier qui rattrape les retardataires à un tour complet, tu dis, la compétition est pas là.
Oui, parce que la compétition, on veut l'avoir avec les grands, on veut pas avoir la compétition entre les 20. Les tout derniers qui font une mauvaise job, si les Williams étaient capables de se battre maintenant avec les Mercedes, il y aurait un problème dans la réglementation, puisqu'ils savent pas travailler. C'est même plus comme McLaren maintenant. C'est là que ça serait honteux. La Formule 1 est supposée être l'extrême, n'est pas supposée être politiquement correcte. Elle n'est pas supposée être là pour favoriser les plus petits.
OK, non, mais je suis ton raisonnement. Mais explique-moi, tu me parles des Williams, tu dis qu'ils ne savent pas travailler. Ça veut dire quoi, ça?
Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas de tête, il n'y a pas le sommet de la pyramide, il n'y en a pas. La décision a été prise il y a plusieurs années de mettre Claire Williams aux commandes de cette écurie, et non pas Jonathan, qui est son frère, qui lui est un passionné de course, qui comprend la course automobile. Et maintenant, on commence à voir le résultat plusieurs années plus tard. Et c'est un peu la même chose qui se passe avec McLaren, où à l'époque on avait décidé de remplacer Button par Van Dorn, parce qu'il faut absolument montrer que le jeune qui a été choisi par l'écurie va être vite. Mais au bout de 3 ou 4 ans, il est toujours largué par Alonso, donc il n'aide pas l'équipe dans le développement. Alonso était au niveau Button était au niveau d'Alonso, donc on a remplacé un pilote qui était utile à l'écurie par un autre. Et au lieu de le mettre à la porte quand il a démontré ne pas être au niveau, eh bien, on le garde. Et au bout de 2-3 ans, eh bien, c'est l'équipe qui en pâtit.
Tu parlais d'Alonso. Je veux juste prendre quelques instants. On l'a vu remporter les 24 heures du Mans, revenir en F1, puis il n'y a pas de résultat là-dedans. Penses-tu qu'Alonso va poursuivre longtemps comme ça? Il va finalement décider de quitter la F1?
Ben, son but actuel, c'est la triple couronne, c'est-à-dire le championnat de F1, les 24 heures du Mans et Indianapolis. Il lui manque Indianapolis, donc il est fort possible qu'il se penche et que McLaren lui fasse son équipe de Formule Indy avec Andretti, juste mettre les couleurs de McLaren, et qu'il se concentre sur ce challenge, parce que avoir 8 championnats du monde, se mettre au niveau de Schumacher, maintenant c'est trop tard, ça va être impossible. Donc l'autre challenge, c'est d'aller chercher cette couronne.
OK, toi, il te manque les 24 heures du Mans. Est-ce que tu vas embarquer?
Eh oui, j'aimerais ça. J'aimerais ça. Malheureusement, une deuxième place, ça ne compte pas dans cette couronne. C'est malheureux. Mais non, l'opportunité n'est pas là, malheureusement. Et puis, des opportunités comme Alonso en a eu cette année où il n'y a pas de compétition, ça n'arrivera plus.
Jacques Villeneuve, j'aimerais qu'on prenne quelques instants pour parler de Lance Stroll. Tu nous as dépeint un peu chez Williams, qu'est-ce qui se passe. Mais l'an passé, Lance Stroll en Autriche a été dans les points. Au moins, il y avait quelque chose de positif, il était là. Cette année, comment tu vois le grand Grand Prix d'Autriche pour Lance Stroll?
Non, la Williams n'est pas là. Donc, il faut vraiment un coup du sort, il faut de la chance, peut-être de la pluie, parce qu'il est rapide sous la pluie. Mais là où on est rendu l'équipe aujourd'hui, qui est le prix que l'équipe paye de toutes les dernières années, aucune chance à la normale d'aller récupérer des points.
OK. Fait que donc, encore une fois, il faut oublier ça du côté de Lance Stroll. Mais parle-moi du circuit en Autriche. Tu en as parlé un peu. Quel genre de circuit, quelle compétition ça peut nous apporter, ce genre de circuit-là?
Ben, c'est très différent de la majorité des autres pistes parce qu'il y a beaucoup de lignes droites entre les virages. Si on prend tous les circuits modernes, lorsqu'il pourrait y avoir une belle partie, une belle ligne droite pour que les pilotes puissent au moins se préparer au virage suivant et peut-être préparer un dépassement. Non, on rajoute 3-4 virages parce que apparemment c'est supposé être génial et technique. Ici, non. On a laissé les lignes droites entre tous les virages. Ça laisse de l'espace et ça, généralement, ça donne de bonnes courses. Mais en même temps, on pensait la même chose de Montréal parce qu'il y a des lignes droites et il y a toujours eu de l'action et cette année, il n'y en a pas eu.
Jacques, écoute, on est rendu quand même à la 9e manche de cette saison F1. Toi, personnellement, toujours de l'énergie après cette 9e manche, à l'aube de cette 9e manche?
Oui, mais les vacances d'été là, vont être bonnes. C'est surtout que l'on arrive du Paul Ricard, de la course en France, qui était vraiment très, très lourde en énergie, parce que ça faisait longtemps qu'il n'y en avait pas eu. Il y avait un trafic de folie, donc très épuisant. Et puis là, on embarque sur une série il reste 4 Grands Prix à la file avec un week-end au milieu. Mais on le sent dans tout le paddock. Là, tout le monde est un peu fatigué.
OK, mais donc, si le monde est fatigué, est-ce que c'est susceptible qu'on ait plus d'erreurs? Parce que, veut pas, la fatigue amène souvent l'erreur humaine.
Non, la fatigue se fait sentir peut-être dans le travail en dehors de la voiture, mais une fois l'adrénaline dans les veines, ça s'oublie assez rapidement.
Dis-moi donc, Jacques, je veux savoir une chose. Tu me dis qu'il y a beaucoup de travail à l'extérieur, évidemment, de la piste, là, dans les paddocks. En tant que pilote, quand tu es pilote de F1, est-ce que durant la soirée, tu passes du temps, tu vas voir les mécanos, comment ça fonctionne?
Ça dépend des pilotes. Mais important, très important de faire une coupure. Donc une fois le travail terminé, le soir là, faut aller manger, faut couper, faut complètement s'éloigner parce que sinon ça permet pas de relaxer, de faire le vide. C'est pas le cas. Vettel, lui, parfois il peut rester très tard dans le paddock et j'ai l'impression que ça le fatigue plus qu'autre chose. Alors qu'un Kimi Raikkonen, lui, à 7h quand c'est fini, il s'en va et parfois ça fonctionne mieux. Donc ça dépend. C'est pas la même chose pour tout le monde. Mais maintenant, il y a plus de travail médiatique, de meeting avec les ingénieurs qu'à l'époque aussi. Donc, le travail a un peu changé.
OK, mais toi, à l'époque, tu disais à un moment donné, ça suffit, certaines heures, je m'en vais. Merci les boys, on se revoit demain, c'est ça?
Oui, ben c'est surtout qu'un bout d'un moment, l'ingénieur disait, écoute, là, on a plus le temps, là, faut passer à autre chose. Mais c'est vrai, rendu 7-8 heures, là, il y a une fatigue mentale incroyable. Il faut couper, c'est très, très important. Il faut être capable aussi de bien dormir. Il faut que le pilote puisse faire son 8 heures de sommeil avant de rentrer dans la voiture. Et pour ça, il faut déconnecter un peu avant.
Ben, Jacques Villeneuve, je te remercie énormément. On écoute tes reportages tout au long du week-end pour ce Grand Prix en Autriche. Merci beaucoup, Jacques, d'avoir été avec nous.
Merci, bye-bye.